Je trouve qu'il y a une vraie construction qui se fait sur ces deux journées. J'aime bien qu'on revienne à des notions qui ont été évoquées hier, en tout début de session, les différences entre besoin, nécessité, la hiérarchisation, les termes de modération et beaucoup de concepts comme ça qui sont à la fois, je trouve, dégagés de leur gang et enrichis et nourris par les discussions qu'on a pu avoir entre-temps. Alors, pour continuer à faire le lien avec hier, on va retrouver notre célèbre feuilletoniste, Jacques Greenwald, qui avait commencé à nous parler hier de la vie de Georgescu Rejène et qui, aujourd'hui, reprend dans un deuxième épisode. On a eu la vie, maintenant on va avoir surtout l'œuvre.
Merci Ruth. Je voudrais, si vous permettez, en préalable, rendre hommage à nos deux conférenciers italiens précédents, Mauro Bonaiuti et Silvana De Gleria, qui, il y a un déséquilibre, je suis le seul français finalement à avoir traduit des textes de Georgescu Rejène et à avoir essayé de propager ses idées, alors qu'en Italie, il y a une réelle école de disciples de Georgescu Rejène. Silvana De Gleria vous a cité Zamani, mais il y a encore Beccatini, qui était le premier traducteur en Italie. Enfin bref, et je voudrais également remercier Silvana, parce que quand Georgescu Rejène est mort, au mois de novembre 1994, ça a été le silence total en France. Aucun économiste qui pourtant avait connu Georgescu Rejène, avait travaillé avec lui pendant 2 ans à Strasbourg, n'a écrit un papier dans Le Monde ou bien dans un journal économique pour rendre hommage à l'œuvre de Georgescu Rejène. Donc la France, malheureusement, fait piètre figure par rapport à l'Italie. Mais étant donné qu'ils ne sont pas là ici aujourd'hui, il faut rendre hommage aussi aux Espagnols, car il y a en Espagne, autour notamment de gens de Barcelone, Juan Martínez Allier, ou d'un grand économiste de Madrid, José Manuel Naredo, qui ont traduit les œuvres de Georgescu en espagnol, il y a une école de bioéconomie en Espagne qui est remarquable également. Donc Georgescu Rejène a eu plus de succès dans les pays latins qu'en France. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait cette petite introduction, c'est que les économistes français sont enfermés dans une tradition mathématico-physique qui est prestigieuse, qui dérive de la mécanique rationnelle, celle de Lagrange, Laplace, Poincaré. Bref, la France a le premier prix dans le domaine de la mécanique céleste. Et hier, Jean-Claude Besson-Girard vous a demandé de regarder le plafond, c'est-à-dire le ciel. C'est exactement ce qu'ont fait les économistes français. Les disciples de Balras, les disciples également de Pareto en Italie, mais qui a enseigné à Lausanne, comme successeur, si ma mémoire est bonne, de Balras, ils ont regardé effectivement la mécanique céleste. Ils ont admiré la loi de la gravitation newtonienne, perfectionnée par Laplace, et ils se sont dit, le but de l'économie politique doit être de devenir une science mathématique du système économique qui est l'équivalent sur la Terre du système céleste dans le ciel. Et ils ont pris la mécanique céleste et ils l'ont appliquée à quelque chose qu'ils ont appelé le circuit économique. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé que l'économie, c'était l'équivalent sur Terre de la mécanique céleste. C'est pas de la blague, hein? Non, non, mais ils ont réellement fait cela, hein? Ils ont essayé d'identifier qu'est-ce qui pourrait ressembler à la mécanique céleste. Pas du tout l'économie, en réalité, pas du tout le travail des gens. Non, quelque chose qui était assez proche de la mécanique rationnelle, qui était la mécanique industrielle inventée par les ingénieurs français sortis de l'école polytechnique, qui s'appelait Coriolis, Navier, Poncelet, qui ont développé une discipline physique qui est une science des machines, une théorie rationnelle des machines, qui nous parle du cycle du travail d'une machine. Et donc, vous voyez comment s'est fait la science économique standard, le modèle néoclassique. On a essayé d'appliquer la mécanique céleste sur Terre en passant par un intermédiaire qui s'appelle la mécanique industrielle, qui est une idéalisation du travail de la machine. Or, il y a toute une tradition dans la théorie de la machine qui est celle du cycle de travail de la machine. Et il y a effectivement une vision circulaire de ce qu'est le processus économique. Vous avez énormément de manuels d'économie qui commencent par le concept, le circuit économique. Ce circuit, il tourne dans un sens, mais il pourrait tourner dans l'autre. Le système d'équation est exactement le même. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait équivalent à la mécanique rationnelle. Autrement dit, il y a une tradition scientifique que Georgescu a très bien identifié à la fois d'un point de vue logique, c'est-à-dire épistémologique, et un point de vue historique, hein, qui est une abstraction fantastique. C'est magnifique du point de vue mathématique. On fait des très belles choses quand on est mathématicien. Et comme Georgescu est mathématicien, une première partie de sa vie chez les économistes était de se sentir tout à fait à l'aise. Il est rentré, comme je vous l'ai dit hier, d'une manière fulgurante dans ce cercle des économistes. Lui, il connaissait à fond Poincaré, Laplace, il maîtrisait ça encore beaucoup mieux que ses collègues comme Léon Thieff, Samuelson, etc. Donc, en l'espace de 2 ans, il est devenu un économiste mathématicien. Et pendant un certain temps, il a aidé ses collègues économistes à faire encore mieux, à raffiner, à vraiment à ciseler la mathématique de cette économie néoclassique, jusqu'au point où il s'est rendu compte, non, là vraiment, on va trop loin. Et au fond, c'est parce qu'il était un excellent économiste mathématicien que tout d'un coup, lorsqu'il est rentré dans son pays puis qu'il a essayé d'appliquer ses belles théories à l'économie agraire de son pays, la Roumanie, qu'il s'est dit « ça ne marche pas ». Et comme il avait une bonne formation philosophique également, il s'est souvenu d'une célèbre formule du mathématicien et philosophe Whitehead, « The fallacy of misplaced concreteness », la fallace, l'erreur, le sophisme de la concrétude mal placée. C'est-à-dire lorsque les économistes ont essayé d'appliquer un modèle très abstrait, mécaniste, arithmomorphique, c'est-à-dire réduit à des nombres, à la réalité économique, ils ont plaqué ce schéma à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'aspect concret, l'aspect réel du processus économique. Ils ne se sont préoccupés que de la valeur monétaire du système économique. C'est-à-dire d'une abstraction tout à fait subjective qui ne dépend que de 2 variables, l'offre et la demande, à l'intérieur d'un marché qui est, bien entendu, un marché de gens qui sont solvables. Donc, on ne tient pas compte des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens de dire « nous, on achète le pétrole à $30 ». Ils n'en ont même pas un seul, donc ils ne sont même pas là pour dire « on aimerait du pétrole ». Parce qu'il ne suffit pas de dire « j'aimerais du pétrole », il faut dire « j'aimerais du pétrole à $30, je suis prêt à mettre $30 pour acheter le pétrole ». Si vous dites « moi, je suis prêt à acheter du pétrole à $0 », on ne vous prend pas au sérieux. Donc, on élimine tous ces gens-là. Non seulement on élimine les pauvres, Mais on élimine toutes les générations futures qui ne sont pas là pour dire « nous aussi on aimerait du pétrole ». Donc vous voyez, on a éliminé beaucoup de choses dans la description du système économique. Mais en plus, on imagine que ce système, comme a dit Sylvana tout à l'heure, est un carrousel. Ça tourne, ça peut tourner plus ou moins vite. En réalité, les taux d'intérêt permettent de prélever une rente. Plus ça tourne vite, plus le capitaliste, c'est-à-dire celui qui ne fait rien, mais qui vit en réalité du capital, du rendement du capital, il s'enrichit. C'est uniquement une question de vitesse. Autrement dit, on prend le temps, comme l'a dit tout à l'heure Sylvana, comme simplement un déplacement. Cela correspond à une tradition scientifique qui est la tradition newtonienne, mais bien entendu cartésienne et galiléenne, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science occidentale mise en place dès le début du XVIIe siècle par ce qu'on peut appeler la révolution galiléenne. C'est-à-dire la réduction d'une notion qui est très riche, qui s'appelle le temps, à simplement un déplacement dans un espace. Et un vecteur, on peut l'inverser, c'est plus t ou moins t. Le système des équations de la mécanique est tout à fait équivalent. Cette tradition-là, elle se développe sur trois siècles, 17e, 18e siècle, 19e siècle. Elle a masqué une rupture qui se situe au début du 19e siècle. Elle l'a masqué, pourquoi ? Parce que l'école polytechnique était dominée par des mathématiciens. Cette école polytechnique et cette tradition physico-mathématique étaient très liées à une discipline qui intéressait les militaires, qui s'appelle la balistique. La balistique est, si vous voulez, une des applications essentielles de la dynamique. C'est-à-dire une des branches de la mécanique. La mécanique a deux branches, la statique, qui intéresse le génie civil, pour construire des beaux immeubles comme ça, il faut savoir la statique, et puis il y a la dynamique. La dynamique intéresse les artilleurs. Toute la tradition des ingénieurs polytechniciens a deux applications, le génie civil, la construction, et l'envoi de projectiles, ça peut être une autoroute, ça peut être un missile balistique, etc. Ça, c'est la tradition dominante de l'Occident dans laquelle les économistes qui voulaient faire de la science et sous-entendu faire de la physique, on a même depuis peu de temps utilisé un concept psychanalytique pour décrire non pas ce besoin mais cette envie de physique, hein, comme Freud avait parlé de l'envie du pénis pour les femmes, soi-disant, enfin c'était le négatif du masculin, les économistes ont été, pendant trois siècles, sous l'emprise de cette pulsion érotique de retrouver la virilité de la dynamique classique. Non, parce qu'il y a effectivement une donnée de genre dans cette science. Ce sont que des hommes qui ont élaboré cette balistique. Il n'y avait pas de femmes dans les universités françaises au XIXe siècle, ni en France, ni en Allemagne, ni en Angleterre. Je pense que c'est un point important. Alors, il y a eu, je vous ai dit, une rupture, une bifurcation au début du XIXe siècle. Et on ne l'a pas vu, ou plutôt, pour reprendre la métaphore psychanalytique, on l'a refoulé. C'est la rupture à l'époque romantique, donc le romantisme par opposition au classicisme, initiée par un génie français, curieusement, sorti de l'école polytechnique, une sorte de météorite dont on ne sait pas où il va, mais on savait d'où il venait. Il sortait de l'école polytechnique, mais curieusement, il invente quelque chose qui qui bouleverse complètement cette tradition française. Il s'appelle Sadi Carnot. Sadi Carnot, qui est né en 1796 et qui est mort fou dans un asile abandonné de tous en 1832, année de la, si je ne me trompe pas, de la mort de Hegel, de la mort de Goethe, c'est une date assez intéressante, de la mort de cet autre génie de la mathématique qui s'appelle Évariste Galois. Lui, ça c'était pour une histoire d'amour, un coup de pistolet, parce que l'histoire de fille. Et la veille, comme vous le savez, il a écrit son testament mathématique qu'on a retrouvé beaucoup plus tard et qu'on a compris beaucoup plus tard. Il y a un parallèle à faire avec Sadi Carnot. On n'a absolument pas compris l'œuvre de Sadi Carnot qu'il avait intitulée, et c'est très important de connaître le titre complet de l'œuvre de Sadi Carnot, car on voit le lien avec les ingénieurs qui développaient le concept de travail mécanique dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir Navier, Poncelet, Coriolis. Carnot vient de cette tradition-là. Il intitule un petit bouquin de 127 pages « Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance ». L'Académie des sciences, à l'époque, auquel ce livre a été présenté par un ami de la famille, n'y voit que du feu. Les plus grands savants français étaient là, ils n'ont rien compris. Absolument rien compris. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, la France n'était pas encore un pays industrialisé, que la machine pertinente pour les Français, c'était la roue hydraulique. On était encore dans un paradigme de l'architecture hydraulique du XVIIIe siècle. On n'était pas encore dans un modèle thermo-industriel. On était encore dans l'ancien régime, malgré la Révolution française. On n'a pas compris ce que voulait dire Sadi Carnot. Vous savez que l'œuvre de Sadi Carnot n'a été retrouvée que par un Anglais, William Thomson, alias Lord Kelvin un peu plus tard, par un Allemand, Rudolf Clausius, vers 1850 seulement. Ils ont développé ce qu'ils ont appelé la théorie mécanique de la chaleur. Donc vous voyez, il déforme déjà la pensée de Carnot. Carnot sortait du modèle newtonien-laplacien, qui ne comporte pas la dimension feu, c'est-à-dire la température ne joue aucun rôle. Pourquoi ? Parce que la température modifie les corps. Or, la mécanique suppose que les corps ne se déforment pas. Suppose que les corps sont des points masse, c'est un terme introduit dans la physique par Euler, grand mathématicien de la balistique, grand révolutionnaire de la balistique au service du despotisme éclairé de Frédéric II de Prusse. Donc on voit les applications très concrètes de tous ces grands mathématiciens pour la science de la guerre, à savoir la raison d'État par tradition et par excellence. Alors que Sadi Carnot, significativement, avait démissionné de l'armée. Je trouve que c'est un symbole dans l'histoire de la vie de Carnot. Et il pense en termes de révolution industrielle, effectivement, il est un des premiers à dire ces nouvelles machines à vapeur, ces machines à feu inventées par les Anglais, elles vont provoquer une grande révolution dans le monde civilisé. La thermodynamique qui va se développer dans la seconde moitié du XIXe siècle, est en réalité la théorie physique d'une nouvelle pratique technologique, c'est-à-dire le passage du monde de l'hydraulique, du monde mécanique de l'ancien régime qui est l'hydraulique, qui remontait au Moyen-Âge, développé par les monastères. Donc il y a une tradition religieuse aussi derrière tout ce mouvement. Avec la révolution industrielle, qui est une révolution thermodynamique, et c'est pour ça que j'ai proposé de l'appeler thermo-industrielle, on change de description de l'univers physique. Il y a une bifurcation absolument radicale. On sort complètement de la représentation newtonienne du système du monde. Ce qui veut dire qu'il y a une répercussion inévitable sur la description du système économique, puisque cette description était newtonienne. Et de ce point de vue-là, Sadi Carnot initiait un courant de pensée qui sera contemporain d'une autre révolution épistémologique au XIXe siècle, c'est la découverte de l'évolution biologique, qui elle-même est contemporaine du changement géologique, notamment à travers la géologie historique, à travers le grand débat du XIXe siècle sur les changements climatiques, dont on reprend aujourd'hui la thématique, non plus en s'occupant uniquement du passé, mais également du futur. La pensée de Georges Grogan s'enracine dans une double révolution épistémologique, donc celle de Carnot et celle de Darwin. Et je crois que c'est très important de voir que ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on va réussir à comprendre la connexion qu'il y a entre cette nouvelle description thermodynamique du changement. Le changement n'est plus simplement un déplacement dans l'espace, mais est une transformation physique, c'est-à-dire matérielle, à travers la chaleur. La chaleur déforme tous les corps. On l'a bien vu avec l'effondrement des tours de Manhattan. C'est la chaleur qui les a fait s'effondrer. Ce n'est pas l'avion. C'est la combustion du kérosène qui a dégagé une chaleur épouvantable et ça a fait fondre les tours métalliques, les barres, les poutres métalliques. Et c'est ça. Bon. Donc, on est dans un autre système du monde qui connecte la physique avec la chimie, parce que la science de la matière, c'est la chimie, et le vivant, c'est aussi de la chimie. Donc, on reconnecte la physique, la chimie, la biologie et la géologie, parce qu'il n'existe pas d'être vivant en dehors de la surface de la Terre. Comme je l'ai dit hier, nous en sommes conscients scientifiquement aujourd'hui parce que nous avons été chercher la vie sur les autres planètes et que le résultat a été très décevant. Contrairement à ce que pensaient nos ancêtres, il n'y a pas dans le système solaire que nous avons exploré, il n'y a pas de vie. Ou en tout cas, il n'y en a plus. C'est-à-dire que la vie n'a pas réussi à être un système auto-organisé, évolutif, durable, sur d'autres planètes. Il est possible qu'on découvre prochainement des traces de vie fossiles sur Mars, au début de l'histoire de Mars, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Bon. Donc, le problème est de reconnecter des disciplines scientifiques dont l'évolution historique s'est faite dans le cadre de l'industrialisation. C'est-à-dire dans le cadre, on pourrait dire, d'Adam Smith, qui posait comme facteur essentiel de la productivité, à la base de la richesse des nations, la division du travail. Mais on a souvent oublié que Adam Smith parlait aussi de la division du travail intellectuel. Donc, le capitalisme et l'industrialisation ont déformé l'évolution du savoir en le parcellisant, en le fragmentant. Et tout le monde sait que la bonne vieille politique machiavélienne, c'est de diviser pour régner. Et donc, à partir du moment où la science est fragmentée, compartimenté, le pouvoir politique peut allègrement, sans vergogne, exploiter les scientifiques à leur service. Et de plus en plus, la science se met au service de cette tradition du système militaro-industriel. Tandis que l'autre tradition scientifique qui refuse cette partialisation du savoir, qui revient vers une conception globale, holistique, qui ne sépare pas la biologie de la géologie, qui ne sépare pas ces sciences naturelles des sciences physico-chimiques, est une science qui garde toujours le contact avec la réalité physique dans laquelle nous vivons, et donc parce que nous vivons dans laquelle nous mourrons, parce que c'est le propre des vivants de mourir, comme disait Goethe, tout être vivant est digne de mourir, donc il s'agit aussi de nous réconcilier avec cet événement biologique, cette invention de l'évolution qui s'appelle la mort individuelle, mais au profit de la perpétuation de la vie. C'est-à-dire que si les individus meurent, c'est pour que l'évolution soit possible. Si vous, vous imaginez bien que si dans cette salle, nous ne mourions pas, et que si on avait envie de faire des enfants, très très vite, cette salle deviendrait surpeuplée, et donc invivable. Donc la mort individuelle est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors, la notion de bioéconomie est une manière pour Georgescu d'enraciner la pensée économique, car la pensée de Georgescu se veut une pensée économique, mais non plus enracinée dans un modèle mécaniste qui tombe du ciel, mais enracinée dans notre nature, qui est de même nature que la nature, avec un grand N. Donc nous ne sommes pas une exception. De ce point de vue-là, Georgescu est un darwiniste convaincu. Nous sommes, avant d'être homo economicus, homo rationalicus, homo occidentalis, tout ce que vous voulez, nous sommes d'abord une espèce animale parmi les espèces animales, et les espèces animales sont un règne parmi les 5 ou 6 règnes de la nature, etc. Donc nous faisons partie de ce grand tout qu'est la nature, et les lois de l'économie ne peuvent pas se permettre d'être en opposition ou d'être radicalement différentes de l'économie de la nature. Autrement dit, Georgescu Regan ouvre un programme de recherche qui est celui de réconcilier l'économie de la nature avec la nature de l'économie. Je vais m'arrêter là pour cet exposé introductif, pour ensuite pouvoir préciser la bioéconomie de Georgescu à travers notre débat.